de la défense. Dans une démocratie, la défense doit être indépendante. Or, l'indépendance, c'est une indépendance économique. Et cette indépendance économique, elle est menacée par cette réforme. Si cette réforme passe en l'état, et ce qui a l'air d'être le cas, puisque le gouvernement s'oriente vers un 49-3, ça veut dire qu'il y a, on évalue, à plus de 20 ou 30% de la population des avocats qui ne pourront plus exercer leur métier, et notamment auprès de la justice de proximité et du citoyen.
Enfin, Emmanuel Macron présidera une cérémonie d'hommage national à Jean Daniel, la grande figure du journalisme et de la gauche française décédée la semaine dernière. La cérémonie se tiendra vendredi aux Invalides à Paris. C'est la fin du journal. Radio G. 101.5 FM.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue tout de suite, c'est l'Oreille Curieuse, la quotidienne des actualités culturelles et locales sur Radio G. Ce soir, j'ai choisi des super titres musicaux. Je fais une petite bande-annonce car je suis très heureuse de ces choix. Si j'ai un peu de temps, je vous parlerai d'un agenda avec quelques sorties arrangées cette semaine. Mais surtout, ce soir, on va parler d'art visuel ou art plastique. Comme on veut, il y a potentiellement un débat. Je reçois deux artistes à l'occasion de leur résidence en ce moment à Angers, accueillis par le collectif Blast. Là, je vous ai donné plein d'éléments, mais quand même, le nom des invités, c'est important. Je suis avec Léa Desmousseaux. Bonsoir, Léa.
Bonsoir.
Et avec Gaëlle Darras. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je l'ai dit, vous êtes en résidence en ce moment depuis le début du mois de février.
Tout à fait.
À Angers. Cette résidence, elle se passe au PAD. C'est à côté du CHU à Angers et c'est accueilli par le collectif Blast, collectif dédié aux arts visuels à Angers. On pourra voir votre travail vendredi à partir de 18h30, parce qu'il y a une ouverture de résidence. Et puis samedi aussi, toute l'après-midi, c'est ouvert. Mais avant de parler un petit peu de ce que vous avez fait pendant ce mois-là de résidence, de ce que vous avez imaginé, j'avais envie que vous nous racontiez un peu ce que vous faisiez chacun. Vos démarches d'artiste, parce que vous êtes ensemble sur cette résidence, mais vous avez tous les deux un travail bien à vous. Alors je sais pas si Gaëlle, tu veux commencer.
Ouais. Alors du coup, j'ai retenu deux questions. Il y a qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci et à la fois ma démarche artistique.
Alors moi, je voulais surtout savoir qui tu es. Je sais que tu as fait les Beaux-Arts de Nantes, dont tu es sorti en 2017.
En 2014.
Ah, 2014, vous avez vu, je dis n'importe quoi. Mais je confonds les
autres. Je crois qu'Annie a été perturbée par un visiteur impromptu.
Merci Léa, c'est très gentil. Bref, avant de parler de la résidence, c'était plus toi, ton travail et ce que tu fais.
Donc oui, effectivement, je suis sorti de l'école des Beaux-Arts de Nantes en 2014, donc il y a bientôt 6 ans, ça passe vite. Donc l'école des Beaux-Arts de Nantes, ça se passe en 5 ans au maximum, pour ceux qui ne le savent pas. Pendant ces 5 ans-là, on fait plein de choses, on apprend à regarder, on apprend à faire, on apprend à créer, on apprend à trouver des sujets qui nous intéressent, nous. Et donc moi là depuis que je suis sorti de l'école, donc je suis resté à Nantes, j'ai continué ma pratique artistique, elle s'est presque un peu réduite à une seule pratique plastique qui est le dessin et l'aquarelle. Le dessin à l'aquarelle ou l'aquarelle dessinée, je sais pas comment le dire. Alors pour plusieurs raisons, hein, c'est que jusqu'au diplôme, j'ai fait pas mal de volume de construction, de sculpture, de découpage, de bois, de plein de choses. Et une fois sorti de l'école, j'avais plus d'atelier. Donc j'ai travaillé dans mon appartement chez moi, sur mon bureau. Et là...
T'avais beaucoup moins de place.
Il y avait beaucoup moins de place, ouais. Donc le dessin et l'aquarelle sont devenus mon médium de prédilection. Et surtout... Après le diplôme, j'ai pris beaucoup de temps pour creuser et renouveler mes sujets de travail, mes sujets d'intérêt, qui étaient jusque-là liés principalement à l'architecture, au bâti, au rapport, aux relations qu'il y a entre l'échelle du corps et l'échelle du bâti. Donc voilà, ça c'était un ensemble de sujets que je traitais... Jusqu'à il y a quelques années, j'ai fait évoluer ça via des lectures, via des recherches, via des vidéos, via plein de choses, via du temps surtout, vers une étude, enfin vers un intérêt porté sur les anciennes civilisations, sur l'histoire de l'architecture, sur l'architecture sacrée, sur tout ce qui a été bâti par l'être humain, enfin tout.
Mais il y a longtemps.
Voilà, mais il y a longtemps.
Quand même des sources, il y a plusieurs milliers d'années.
Voilà.
Ouais, c'est quand même un rapport à la mémoire.
Il y a un rapport à la mémoire, effectivement. Enfin, le rapport à la mémoire est direct, puisque le plus souvent, ce qui va nous rester des anciennes civilisations, quand je dis anciennes, moi je pense particulièrement à la civilisation mésopotamienne. Donc c'est à peu près il y a 5000 ans, hein, pour replacer. Oui, donc on parle de mémoire parce que ce qui va rester le plus souvent de ces civilisations-là vont être les architectures ou alors de la poterie. Dans tous les cas, c'est les matériaux durs, donc de la terre cuite ou de la pierre. Et en l'occurrence, là, pour la Mésopotamie, c'est de la brique cuite.
Ouais, on va y revenir sur la brique. Léa, toi, tu es aussi diplômée des Beaux-Arts de Nantes, dont tu es sortie plus récemment en 2019.
Tout à fait.
Et on peut dire que ce que tu travailles principalement, c'est la photographie.
Oui, tout à fait.
Avec un...
Ouais, principalement, même exclusivement, en fait, depuis un moment déjà.
Ouais, mais de façon un peu expérimentale ou en mêlant différentes façons de faire de la photo.
Oui, assez expérimentale. Je m'intéresse à la fois aux techniques analogiques et aux techniques digitales. Je fais un mix entre les deux. Donc, je photographie, toutes les prises de vue vont être faites à l'argentique. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens. C'est le rapport à la matière directement au moment de la prise de vue, quoi. Les salles d'argent, voilà. Je m'intéresse aussi à des techniques de photographie primitive qui datent du 19e, comme le cyanotype, dont on reparlera un petit peu parce que c'est la technique que j'ai utilisée, que j'ai explorée pour cette résidence.
Ouais.
Moi, j'ai une pratique de photographie qui est traversée par l'imagerie du paysage désertique et par la question de l'abstraction également, que j'estime un peu lié, le paysage désertique et l'abstraction. Moi, ma manière de travailler, ça va vraiment être... c'est d'abord le voyage, c'est d'abord l'exploration de lieux de mémoire minérale. Ça a commencé par les musées, en fait, qui sont des espaces très particuliers. Donc les musées d'antiquité, principalement. Muséum d'histoire naturelle aussi. Et plus récemment, par extension, il y a également sites archéologiques et sites géologiques. Parce qu'on peut estimer qu'un désert, dès lors qu'il est cartographié, qu'il est référencé dans les guides de tourisme, quelque part, c'est une forme de muséographie. Et donc moi, voilà, ça part vraiment d'une expérience de ces lieux-là, dans le déplacement, dans l'expérience sensible. Et je photographie de manière assez instinctive des fragments de ces lieux-là. Et donc j'ai une base, une forme d'archive comme ça, sur laquelle je travaille par la suite. Il y a tout un travail de sélection qui est assez long. Voilà, je vais beaucoup réfléchir après à là où la prise de vue est un rapport très instinctif, très physique au paysage.
Ouais, très sensible. Il y a aussi, j'ai l'impression, beaucoup de matière dans tes images. Et la question de l'échelle, des fois on ne sait pas si ce qu'on regarde est très grand ou très petit, ou tu viens jouer un peu avec ça.
Ouais, tout à fait. C'est quelque chose de très central dans ma manière de pratiquer l'image. Et ce qui m'intéresse beaucoup en photographie, en fait, c'est moins sa capacité à reproduire le réel que de justement le transformer, le déplacer, le décontextualiser. Et je procède beaucoup par fragments. Et quand je photographie dans les musées, en fait, je travaille avec un objectif macro la plupart du temps, ou un téléobjectif qui va permettre d'atteindre une parcelle d'objets très lointaine et de la rapprocher, de la zoomer. Et donc ça va être vraiment un détail dans ces pièces de musée qui, par le travail de cadrage, de hors-champ, de décontextualisation, dans lequel va s'ouvrir en fait une impression d'immensité désertique. Et inversement, je peux prendre en photographie des paysages qui s'étalent sur plusieurs kilomètres, mais qui vont ressembler à des détails de roches, à des cailloux. Voilà, et oui, voilà, je travaille beaucoup sur ce trouble-là. Et également aussi dans la manière de travailler le grain. Il y a cette question de la particule qui compose. J'ai un grain très présent, en fait. Il y a la particule qui compose l'ensemble. C'est des images assez arénisées qui rejoignent un peu la texture du sable, de l'effritement, du minéral.
Mmh. On sent tout ça dans l'image. Ok. Cette résidence, vous la menez tous les deux, mais je ne sais pas si on peut dire que vous travaillez ensemble ou côte à côte.
Côte à côte.
Parce que vous êtes en duo, en même temps vous êtes chacun sur des projets bien particuliers. Comment vous, vous le voyez, vous ?
Je réponds.
Oui, vas-y.
Alors là, pour cette résidence-là, on travaille côte à côte. Hein. Mais on a... En fait, la question est pertinente parce qu'on a un travail en duo, en plus de nos travail respectifs.
Plus ponctuel.
Qui est plus ponctuel, qui existe pour l'instant sous forme d'une série de photographies. Mm-hmm. Il y a une deuxième en cours, donc sous forme de deux séries. Après,
qui est en gestation encore.
En fait, notre manière de travailler, chacun, pas dans la manière, mais plutôt dans nos sujets de réflexion, on se retrouve sur beaucoup de points. On échange sur énormément de choses, notamment le regard sur l'antique, le regard sur la mémoire, sur les vestiges, etc. C'est des choses qui vont nourrir nos travaux à tous les deux. Et du coup, je reviens à la résidence. À la résidence, là, on a choisi de chacun venir, pendant ces 4 semaines, réaliser une pièce.
De grand format.
Voilà. Réaliser une pièce en grand format.
Ouais. Voilà. Alors,
se répondent très bien d'ailleurs. Venir voir.
Je pense qu'on va décrire un peu plus juste après. Peut-être pour finir sur cet aspect pièce en commun. Mm-hmm. Il y a une création que vous avez réalisée tous les deux l'an dernier. J'ai mal écrit le titre, alors j'ai peur de mal le lire.
Tarquinia.
Bon, ça va, alors j'aurais pas dit trop de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ? Et est-ce que c'est la seule œuvre que vous avez fait ensemble pour l'instant ?
Qui est achevée, oui. Ouais. Il y en a d'autres en gestation, mais celle-ci, c'est la première pierre à l'édifice.
Ouais. Et c'est des photos.
Oui, c'est une série de photographies dont on a fait une édition et une installation sculpturale aussi. Un dispositif spatial.
Alors du coup, pour la petite histoire, cette série de photographies, elle est née quand ? Elle est née
en mai 2018.
Donc il y a bientôt 2 ans. Nous sommes partis tous les deux en voyage pendant 5 semaines en Italie, en voiture, de Nantes à Naples. Donc c'était un peu le gros périple quand même.
On n'est pas des caravaniennes.
Le choix de ce voyage, c'était... Le principal, c'était de visiter le plus de sites archéologiques possibles. Alors, on a visité beaucoup de nécropoles étrusques en Toscane.
Les Étrusques, c'est quelle époque ?
Les Étrusques, c'est juste avant...
C'est presque des pros de l'archéologie maintenant.
C'est juste avant les Romains. En fait, les Romains ont intégré les Étrusques dans leur civilisation. Donc les Romains, ça commence quand? Ça commence moins...
Je sais pas.
On n'est pas obligé de savoir. 400, hein, c'est pas une émission archéologique.
Donc c'est assez ancien. Hein, c'est entre il y a 2000 et 2500 ans. Voilà. Donc ça reste assez ancien. Donc on a visité beaucoup de nécropoles. Nécropoles, c'est comme on l'indique, c'était les villes des morts. Et la particularité des nécropoles étrusques, en tout cas, c'était qu'elles étaient creusées. Donc c'est des constructions en négatif. C'est-à-dire qu'en Toscane, il y a beaucoup de...
Je sais pas trop, stuc.
De stuc. C'est des grands plateaux de stuc. Ça ressemble... C'est assez proche du tuffeau, en fait. Hein. C'est des plateaux calcaires. Et dans ces plateaux calcaires, sont soit entièrement sculptés et creusés, soit à moitié, c'est-à-dire à moitié creusés et à moitié bâtis, en hauteur, des centaines et des centaines de tombes, en fait. Donc, il y a des parcs qui sont absolument sublimes. Hein. Je pense au parc de Populonia.
Cerveteri aussi, Tarquinia.
Et Tarquinia qui sont... c'est immense, quoi. C'est immense, on peut rester des heures et des heures, ça fait plusieurs hectares, et il y a des tombes creusées, donc c'est des escaliers qui descendent, quoi. Dans la forêt, il y a des escaliers qui descendent dans le sol. Mm-hmm. Des fois, c'est à ciel ouvert, des fois, c'est des grands dômes. Donc voilà, on a visité tout ça, on a fait un petit passage à Rome aussi, quand même. Et puis, on est allé jusqu'à Naples, où on a fait le classique, on est allé voir Pompéi.
Mais quel lien avec cette œuvre en commun, jusqu'ici?
Alors, j'y viens, je l'ai en tête. L'œuvre, elle est née sur le retour de ce voyage. On est repassé en Toscane et on s'est arrêté sur une plage de sable noir.
Volcanique.
Volcanique, oui, noir parce que volcanique. Et sur cette plage, on a construit un château de sable, tout simplement, qui n'a pas une forme de château, qui a plutôt une forme de...
Un simulacre de site archéologique.
Voilà, ouais. À moitié effondré, et puis au bord de l'eau, et quand quelques vagues sont venues un peu lisser nos formes, on a fait des captures... Enfin, Léa a pris des photos à l'argentique. Mmh. Et on était très surpris parce que au moment du développement, c'est assez troublant. Plusieurs personnes nous demandent où c'est, quel est ce site archéologique mystérieux.
Parce que nous, là, on a le mystère, mais sinon, quand on le regarde, on ne se doute pas forcément que c'est pas un...
Voilà, vraiment, il y a un trouble de l'échelle, un trouble du regard.
On m'a même dit un truc très mignon un jour, c'est « Oh, c'est des châteaux de sable antiques
!» Ce qui est plutôt impressionnant. Ouais.
Donc voilà, dans l'application, c'est une série de photographies où on voit un site antique.
Donc plus ou moins réel.
Voilà.
Ok. On va continuer à parler de ce que vous avez fait pendant un mois, pendant cette résidence, mais j'ai promis des super titres de musique, en tout cas moi j'y crois, je les aime beaucoup. On va écouter l'un d'eux, c'est Agnès Obel qui a sorti un album la semaine dernière, je ne sais pas si ça vous parle, l'album s'appelle Myopia, et ce titre c'est Promise Keeper. Et il est très très calme.
Came on,
écoutez l'oreille curieuse sur Radio G. On reçoit ce soir deux artistes à l'occasion de leur résidence à Angers, Léa Desmousseaux et Gaël Darras. Vous verrez leur travail vendredi à 18h30. Il y aura un vernissage fin de résidence. Et sinon, samedi de 14h à 18h. Et c'est au PAD, au 3 boulevard d'Avier à Angers, à côté du CHU. Et l'entrée est libre. Voilà pour les informations pratiques. Gaëlle, Léa, on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Ça fait un mois que vous êtes dans cet espace d'atelier, qui va aussi être l'espace d'exposition pour la restitution, la sortie de résidence. Question peut-être bête, mais ça consiste en quoi de faire une résidence d'artiste pendant un mois? À quoi que ça sert?
Ça sert, c'est absolument essentiel. Moi, bah, comme Léa, c'est la première fois qu'on est en résidence d'artiste et ça va être dur de retourner chez nous parce que le principe de la résidence d'artiste, c'est que on est accueilli quelque part, on nous prête un lieu chaleureusement, un atelier, et puis on est là pendant un mois pour ne faire que travailler sur notre, sur nos ou notre création. Et c'est la première fois que ça m'arrive, en 6 ans en fait, de pouvoir passer un mois, 100% de mon temps, à faire ce que j'ai envie de faire.
Bah, et l'espace, plus, le temps, les moyens, tout.
D'être rémunéré en plus, pour faire ça.
De pouvoir donc, faire ton métier en fait.
De pouvoir faire mon métier, voilà. Donc,
et c'est avec une équipe super, et dans un environnement quand même qui est la pépinière d'Avier, artistique d'Avier.
Le PAD.
Où il y a... Voilà, plein d'ateliers d'artistes, donc c'est aussi un environnement social hyper enrichissant de pouvoir renouveler les regards, les échanges sur la pratique, quoi.
Ouais. Et tu le disais un petit peu avant qu'on écoute le titre, Gaëlle, vous êtes venu avec chacun un projet d'une œuvre qui se répond assez bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le projet avec lequel vous êtes venu, chacun de votre côté, et comment vous l'avez porté, créé depuis 3 semaines? Léa, toi, tu es venue avec des cyanotypes?
Oui, avec un cyanotype grand format à réaliser.
Donc t'es venue, t'avais rien du tout.
J'avais préparé un peu en amont mes négatifs. Je suis arrivée avec les négatifs parce que toute l'information est contenue dans le négatif, donc c'était quand même important. Donc grand format, 2 mètres par 3. Donc le cyanotype, c'est une technique de tirage analogique bleu monochrome qui a été inventée au 19e siècle par Herschel, qui était un scientifique et astronome. Et c'est une technique, pour la petite histoire, qui a été popularisée par Anna Atkins, qui a publié au 19e, j'ai pas la date exacte, un livre de botanique avec des planches réalisées au cyanotype.
Donc des tirages assez bleus.
Ah bah oui, carrément bleu même.
Bleu.
C'est un bleu de Prusse.
Et c'est une technique où il n'y a pas d'agrandissement possible?
Non. Alors, je ne sais pas vraiment ce que tu entends par là, mais c'est une technique par contact, on dit. Donc ça veut dire qu'il faut un négatif à l'échelle finale de l'image. Donc à l'époque du 19e, c'était des très petites images parce qu'on avait des négatifs de la taille d'une chambre photographique. Donc c'est pas plus grand qu'une paume de main, du moins que la mienne.
Ce qui sera notre référence.
Et moi, comme je travaille vraiment sur le croisement entre les techniques analogiques et digitales, j'ai pu produire 100 négatifs numériques à partir d'un négatif argentique. Donc 100 négatifs qui vont recomposer une image de 2 mètres par 3.
Et cette image, qu'est-ce qu'elle représente ?
Cette image-là, elle provient d'une image d'archive trouvée sur Google Images du site gréco-romain de Palmyre, qui est situé en Syrie et qui a fait l'objet d'attaques par l'État islamique en 2015. Et donc, je suis venue refotographier un fragment de cette image-là. Donc, il y a déjà un filtre de déformation de cet objet-là, où on voit simplement des colonnes dans une steppe désertique, mais qui s'apparente plus finalement à des espèces de signes comme ça dans un espace un peu vague. Et voilà, où il y a la matière du pixel et du grain argentique qui viennent se mêler.
Ouais, il y a toujours le passage numérique, argentique, analogique, ouais. Enfin, peu importe en fait dans ton travail, ou est-ce qu'on peut dire peu importe? Je m'emporte un peu.
Non, on peut pas dire peu importe.
On peut pas dire peu importe. C'était...
Non, parce que le pixel, je l'introduis assez récemment, et j'ai toute une partie de mon travail aussi qui est du noir et blanc un peu plus classique, où le grain est très présent. Il y a quand même un travail sur l'érosion de la matière photographique, mais c'est une approche un peu plus classique.
Donc depuis que tu es arrivée en résidence, pour faire ce grand format de 2 mètres par 3, il a fallu que tu insoles chaque...
C'est ça, le corps de l'image est recomposé un peu à la manière d'un puzzle, pièce par pièce, fragment par fragment, avec une dizaine de minutes d'exposition ultraviolet par un morceau d'image.
Ouais.
Voilà. Et le résultat est un grand espace pictural bleu qui est traversé par une grande grille blanche, qui rappelle un peu le découpage des océans, une forme de cartographie, ou potentiellement aussi le carawayage archéologique, où on découpe une parcelle de terrain pour fouiller en zone A1, B10,
ouais, le B12. Ouais.
Okay. Voilà. C'est quadrillé parce que tu as plusieurs feuilles.
Oui. Donc c'est mon image, l'espace de l'image est divisé en 100 négatifs et en 25 feuilles. Donc tout ça fait une stratification de trames entremêlées. Voilà.
Ouais, on fait un peu le jeu des devinettes pour imaginer à quoi ça ressemble, mais voilà. Vous pouvez venir voir cette fin de semaine, hein. C'est possible, c'est facile. Et toi Gaëlle, tu travailles donc pour cette résidence, tu as travaillé aussi avec un grand format constitué de plusieurs feuilles.
Oui.
Mais c'est de l'aquarelle.
Voilà, donc moi je suis venu finir en réalité une grande peinture, parce que je l'ai commencé déjà courant décembre. Donc c'est également un grand format qui est un peu plus petit que celui de Léa, elle a gagné en taille.
Compétition.
Oui, mais il est en portrait, donc il paraît plus haut.
Voilà.
Plus grand.
Un peu plus petit, je ne sais plus comment il fait, 1m80 par 2m40. Il est composé de 9 feuilles. En format portrait, qui sont, voilà. Et cette peinture-là, elle représente un mur de briques vu de face.
Et on ne voit que des briques.
Et on ne voit
Gaëlle aime beaucoup
que
les briques.
Des briques. Une petite fixation sur la brique, on pourra en parler, parce que ce n'est pas.
Ce n'est pas anodin. Bah justement,
c'est pas
pourquoi
gratuit.
Tu es fan de la brique? Tout à l'heure, Léa nous parlait de la taille de la paume de la main. Moi, ça m'a fait penser à l'histoire des briques. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette obsession?
Ouais. Alors, je finis vite fait d'écrire la peinture et après, on s'engouffre dans l'histoire de la brique. Donc, cette peinture-là, elle est composée de milliers... Enfin, c'est un mur composé de milliers de petites briques que j'ai peintes une par une. Elles font 1 cm par 3,5 cm. Et il y a une particularité, c'est que ce mur est traversé de lignes, en fait, de grandes lignes qui forment une grille. Et chaque brique qui est touchée par une ligne est mise en relief. Donc en fait, ces lignes-là, on les voit grâce au relief que forment les briques. Voilà, pour vous
avec
faire...
des ombres, le dessin reste toujours plat. C'est de la couleur, c'est des valeurs, c'est des nuances.
Voilà, oui, c'est j'utilise la perspective pour avoir l'illusion de la trois dimensions, mais ça reste du dessin. Voilà. Alors la brique. Quelle est la question ?
C'est très important dans ton travail.
C'est très important.
C'est pas juste par hasard. C'est pas forcément la brique de l'habitat anglais qui te touche au départ.
C'est vrai. Alors,
une très vieille brique.
Voilà. Déjà, j'ai un attrait d'intuition sur le matériau de la brique. C'est une couleur que j'aime, c'est un matériau que j'aime. La terre cuite, l'argile rouge, etc. C'est quelque chose qui me parle visuellement, esthétiquement. Ok. Bon. Mais surtout, quand j'ai compris que je faisais un peu une fixette sur la brique, j'ai cherché. Chercher un peu dans l'histoire d'où ça venait, comment ça avait été utilisé, etc. Et je suis remonté du coup jusqu'à la civilisation mésopotamienne, notamment les Sumériens, qui sont les premiers Mésopotamiens. Donc Mésopotamie, c'est en Irak et en Syrie, pour situer. Hein. C'est la vallée qui est située entre le Tigre et l'Euphrate, entre deux fleuves. Mésopotamie veut dire le pays entre deux fleuves. Et cette civilisation-là, donc les Sumériens, n'avait pas de pierre et pas de bois. Ils vivaient sur un plateau argileux. Et qui dit plateau argileux dit argile. Et donc ils se sont dit, on va inventer la brique. C'est parti.
Ça s'est peut-être pas tout à fait passé comme ça, mais ils ont inventé la brique.
Si, moi je crois beaucoup en eux.
Oui, oui, en tout cas, ils ont vraiment inventé la brique.
Ils ont inventé la brique à grande échelle, on va dire. Enfin, inventé, non. C'est le premier témoignage qu'on connaît de brique, d'industrie de la brique, on va dire. Mmh. Et donc là, c'était des briques de terre crue, la plupart du temps, qui étaient fabriquées, et celles-ci étaient destinées à l'habitat. À l'habitat du commun, voilà. Et la terre cuite, les briques cuites étaient destinées à la construction de temples et j'imagine aux palais royaux. Enfin voilà. Donc tout ce qui devait durer dans le temps était cuit, tout ce qui pouvait être restauré deux fois par an était cru.
Ok.
Voilà. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la brique mésopotamienne, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas les dimensions qu'on connaît aujourd'hui. C'est des dimensions qui ont été, on suppose, hein, après c'est peut-être une belle histoire, en tout cas moi elle me plaît, on suppose qu'elle a été faite à l'échelle de la main. C'est-à-dire que si on se met, alors je vais essayer de traduire ça avec des mots, si on se met face à face, deux personnes se mettent face à face, font des angles droits avec leurs mains, avec leurs pouces et leurs mains, se mettent en face et ça dessine un rectangle. Ce rectangle-là, et la dimension de la brique sumérienne.
Donc il y a quatre mains à plat, quatre mains contre plat, pouce, voilà. Et bout des doigts contre bout des doigts, on a la surface de la brique.
Voilà, et ensuite et la paume de la main fait l'épaisseur de la brique.
Voilà, si on tourne ses mains, voilà. Ok. Donc c'est des briques.
Donc ça fait un module de construction qui découle de l'échelle du corps, en fait. Bon, ce qu'on a vu, hein, dans l'histoire de l'architecture, ça, on l'a vu... plein de fois, mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est lointain. C'est quelque chose d'assez simple. On parle pas encore des géométries sacrées, on parle pas encore de...
Du nombre d'or,
mais on parle pas encore du modulor non plus, de Le Corbusier. C'est encore un peu plus primitif que tout ça. Et voilà. Alors, il y a d'autres... je prends encore une minute sur la brique.
On va finir en retard, mais dis-nous, une minute sur la brique.
Oui, pour finir. Non, c'est une anecdote qui est belle. Il nous reste des civilisations mésopotamiennes un récit, qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh, qui est le plus ancien récit littéraire de l'histoire de l'humanité, que l'on connaisse. Et dans ce récit, bon, c'est un récit initiatique, l'histoire d'un roi qui est méchant, il part, après il devient gentil, je le fais vraiment rapide. Et ce roi-là, Gilgamesh, quand il revient dans sa ville, Uruk, il s'est transformé, il est devenu bon et il rassemble son peuple et l'injonction, l'image qui est laissée à la fin de ce récit, c'est rassemblez-vous, fabriquez des briques, des millions de briques, et ensemble on va construire un mur d'enceinte pour protéger la ville. Voilà, du coup là, dans ce texte-là qui a 6000 ans, la brique a une présence très importante qui est la protection, qui est l'image du rassemblement social quelque part. Enfin, c'est une espèce de liant comme ça de société. Mmh. Et donc ça fait un mur, et ça c'est beau. Donc je peins des murs.
Toutes ces histoires, ces mythes, enfin, c'est des choses très très lointaines qui sont importantes dans vos deux travaux, même si vous faites des choses qui sont bien différentes. Est-ce qu'elles sont nécessaires pour comprendre votre travail, pour l'observer, pour tout saisir?
Non, je ne pense pas.
Ouais.
Non.
On peut venir juste voir les briques. Quitte à discuter après.
Oui, parce que autant pour le travail de Léa. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait quand même beaucoup à voir avec l'abstraction, et je pense que l'abstraction, ben, ça se passe aussi de commentaires, ça se passe d'histoire. Enfin, c'est une matière qui permet justement un regard un peu plus exempt de connaissances, on va dire, historiques par exemple.
Oui, c'est de la contemplation, voilà, c'est de la sensibilité, c'est...
Oui, tout ça, ça nourrit votre travail, mais c'est pas... Nous, en tant que spectateurs ou spectatrices, on n'est pas obligé d'avoir fait toutes ces recherches.
Pas du tout.
Du tout.
Ouais.
Non, après, ça transparaît ou ça ne transparaît pas. C'est pas forcément ce qui est important. On ouvre des espaces d'imaginaire et libre à chacun de s'engouffrer par la voie qui lui plaît, qui est la sienne.
Ouais.
On n'est pas du tout didactif dans notre manière de travailler.
Et là, ça fait 3 semaines donc, que vous travaillez sur ces deux pièces-là, ces deux créations. Qu'est-ce que c'est pour vous d'ouvrir l'espace de travail à d'autres regards, ce qui va avoir lieu cette fin de semaine, d'accueillir des personnes, de montrer le travail? Est-ce que c'est un moment important pour vous?
Bien sûr.
Ouais, c'est important. Ce qui marque une frontière, c'est une fois que j'ai fini un travail, en fait. Là, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures à peindre.
Parce que c'est très très minutieux.
Voilà, ouais, c'était vraiment très très long. Hein. Mais une fois que j'ai fini, quelque part, c'est... À partir du moment où c'est fini, il faut apprendre à laisser partir, parce que, ben, effectivement, il y a d'autres gens qui vont venir le voir, donc en regardant, on s'approprie les choses aussi, donc ça m'appartient moins, de moins en moins, à partir du moment où c'est fini. Moi, ma vraie relation avec une œuvre que je vais faire, c'est pendant que je la fais. Une fois qu'elle est faite, quelque part, ben, elle peut être achetée, elle peut partir.
Elle peut vivre sa vie.
Et donc c'est fini, en fait.
Toi, Léa, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ?
Je sais pas.
Bon, ce n'est pas une obligation. Parce que de toute façon, je vois qu'il reste pas beaucoup de temps, c'est-à-dire 1 minute 30 pour finir cette émission. Donc à part s'il y a quelque chose de fondamental qu'on a oublié de dire, de transmettre, sinon je vais redonner toutes les infos pour aller découvrir le travail.
Non, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Après, si vous voulez en savoir plus, on sera ravis de vous accueillir et de vous raconter plein d'histoires.
Ouais, est-ce que vous avez plein aussi, de récits, ouais.
D'entendre aussi vos propres histoires que vous faites en voyant ce qu'on propose. Mm-hmm. Parce que je pense que, pour rebondir un peu sur la question à laquelle j'ai pas répondu, c'est ça. Enfin, nos images ne nous appartiennent pas qu'à nous. Elles sont aussi faites pour nourrir d'autres imaginaires. C'est ce qui nous intéresse aussi, même si ça peut nous déstabiliser également.
Donc on peut venir vous déstabiliser.
Venez nous déstabiliser.
Vendredi, l'ouverture de résidence, donc c'est entre 14h et 18h. Enfin, ça, c'est samedi. Je crois que j'ai dit une bêtise juste avant. Vendredi, c'est à partir de 18h30 pour un vernissage. Ce sera au 3 boulevard d'Avier à Angers. L'entrée est libre et gratuite. Et si on veut suivre votre travail ou le découvrir, il est en ligne. Gaëlle, tu as un site, gaëldarras.fr.
Oui.
Et Léa, toi, tu es sur Instagram, Léa Desmousseaux.
Oui, j'ai aussi un site qui est en construction, qui va être publié bientôt.
Voilà,
et moi, Desmousseaux.fr.
Trop facile. Et je mets tout en ligne sur la page de l'émission, L'Oreille Curieuse, sur le site de Radio G. Vous connaissez forcément déjà l'adresse. Je speed parce qu'en fait, on est en train de rendre l'émission en retard. mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci beaucoup, Léa.
Merci.
D'être venue
Merci.
Parler de votre travail. Et je vous dis à vous qui nous écoutez, à très vite. À 19h, vous retrouvez la case de Seb. Bonne soirée.
Ah, who's in the game? www.radio-g.fr.
Il est 19h tout pile.